France Musique. Musique et moi.
Boris Charmatz.
Priscille Lafitte. France Musique.
Nul homme n'est une île entière en elle-même. Tout homme est un morceau du continent, une partie de l'ensemble. Si une motte de terre était emportée par la mer, l'Europe en serait diminuée, aussi bien que si c'était un promontoire, aussi bien que si c'était le manoir de tes amis ou le tien propre. La mort de tout homme me diminue, parce que je fais partie du genre humain, et en conséquence, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas, il sonne pour toi.
No man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less. As well as if a promontory were, as well as if a manor of thy friends or of thine own were. Any man's death diminishes me, because I am involved in mankind. And therefore, never send to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. John Donne, 1624.
Nul homme est une île entière en elle-même, tout homme est un morceau du continent, une partie de l'ensemble. Nul homme est une île, pas même un danseur, pas même un chorégraphe, nous dit Boris Charmatz ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique et moi.
Merci de cette invitation.
Vous êtes donc danseur, chorégraphe et vous proposez en ce moment au Théâtre du Châtelet une création qui s'intitule « Liberté cathédrale » avec les danseurs du Tanztheater Wuppertal. Ballet ou troupe réunis par Pina Bausch et la Régine, vous préférez dire ballet ou vous
trouvez? Un ensemble, c'est l'ensemble. Même en allemand, on dit l'ensemble.
Ensemble dont vous avez pris récemment la direction. Et au cours de ce spectacle, ces mots de John Donne sont prononcés, murmurés, chantés, déclamés aux quatre coins du théâtre, un peu comme PJ Harvey à l'instant. Que signifient pour vous ces mots?
J'aimerais que ce soit comme PJ Harvey à l'instant, je dois dire. Heureusement que j'ai lu juste avant elle, parce que après, je serais resté muet. Elle est quand même incroyable, non?
Mais ouais. Pourquoi ces mots-là? Pourquoi résolvent-ils en vous?
Dans la pièce est en 5 parties. On voulait une partie d'orgue, une partie de cloche, une partie de silence, une partie de chant. Et je voulais une partie de texte, on cherchait. Et c'est Catherine Wood, qui est commissaire à la Tate Modern. On échangeait, et elle nous a envoyé ce poème. Tu connais sûrement. Et je me suis dit, voilà, il faut... C'est le texte qu'on va utiliser parce que, en fait, on peut que paraphraser ce texte. Hein. Nul homme n'est une île. J'adore ça. On n'est pas tout seul, mais surtout que chaque glas qui sonne, en fait, sonne pour soi-même. C'est-à-dire, ça signale la mort d'un autre, mais en fait, on est diminué quand une partie de l'ensemble disparaît. Donc, c'est très beau. C'est de la poésie classique, on va dire. Mais moi, je connaissais pas ce poème avant. Et on le met en tension dans la pièce Liberté Cathédrale, parce qu'il y a une tension entre une chanson de Peaches, dont la ligne principale c'est « Fuck the pain away », c'est-à-dire, je sais même pas comment traduire ça en français.
Exprime la douleur, mais de façon plus violente.
Va te faire foutre la douleur, ou je sais pas. Et l'équilibre impossible entre John Donne et Peaches convient bien à la pièce.
Et cette sonate de Westhoff, que raconte-t-elle du monde? On vient d'entendre... Sonate pour violon et basse continue, la numéro 3, une imitation, Imitazione della Campane, je ne sais pas bien prononcer l'italien, mais que raconte-t-elle du monde à vos oreilles, à vous?
Alors, je ne sais pas, mais c'est Amandine Bayer, violoniste extraordinaire, qui m'a conseillé ce morceau, et qui le joue d'ailleurs, parfois je danse, et puis elle joue pour moi, et Marion Barbeau aussi, je lui ai fait un petit solo sur cette musique-là, joué par Amandine.
Qui est à peine plus tardive que le poème de John Donne.
Oui, c'est fou.
Qui est fin 17e.
Et en fait, je ne sais pas ce que ça raconte, parce que j'adore le bariolage. Donc j'adore les arpèges au violon, j'adore ça. Et c'est comme ça qu'elle me l'a conseillé d'ailleurs, Amandine. Et comme ça ne dure qu'une minute, je le mets en boucle et je l'écoute pendant une heure. Mais c'est ridicule, mais... Je suis un fanatique absolu de ce passage, mais globalement, je connaissais pas, sauf j'ai découvert grâce à Amandine Bayer. C'est un sacré compositeur.
Ouais. Voilà. Westhoff, qui précédait Bach, dont voici la Chaconne, jouée par Amandine Bayer.
Thank you.
entendez peut-être chez Vestov déjà ce qui s'épanouira ensuite chez Bach. Et il faut noter que ces deux pièces de musique sont en ré mineur. Il faut croire qu'Amandine Beyer aime bien cette tonalité. Est-ce qu'elle vous plaît aussi, à vous aussi ?
Elle me plaît bien, oui. Oui, elle me plaît bien. Bon, j'ai pas du tout l'oreille absolue, mais quand je siffle, il y a un solo qui s'appelle Somnol où je siffle. Et le ré, c'est ma note de base. Je me réfère au ré, comme ça.
C'est-à-dire que vous jouez un ré avant de monter sur scène ?
La note la plus grave quand je siffle, c'est une sorte de ré, des fois ré bémol, mais en principe ré. Et donc, le ré mineur me plaît bien, mais ça m'évoque des lointains souvenirs de solfège, de violon justement aussi.
Parce que vous en avez joué du violon ?
Oui, j'ai fait du violon au conservatoire de Chambéry, de 7 à 11 ans, 12 ans. J'ai fait, je crois, 6 ans de violon, il me semble, avec Jean-Paul Gariglio, un professeur que j'aimais beaucoup. Mais du coup, c'est toujours un peu douloureux, parce que quand... Enfin, c'est pas douloureux, mais quand j'entends la chaconne, c'est exactement ce que je n'aurais jamais pu jouer non plus. Donc voilà.
Mais est-ce que ça vous est arrivé de danser seul sur cette chaconne ?
Alors, seul non, mais j'ai vraiment la chance immense de danser un duo avec Anne-Theresa de Kersmacher sur cette chaconne. Donc c'est un trio finalement, parce que c'est Amandine Beyer, Anne-Theresa et moi. Et non seulement on le danse et on l'a dansé, toute la partita, mais comme on l'a répété, on a eu la chance de vivre avec cette musique et un luxe très très rare d'inventer la chorégraphie, de répéter avec le violon en répétition aussi, en live. Bon, on a utilisé les bandes aussi bien sûr, et c'était une vraie expérience transformative, vraiment. Ça m'a plu énormément.
Est-ce que cette chaconne transforme particulièrement ?
Oui, bah là on entend le bariolage, les arpèges. Je sais pas ce que ça vous fait à vous, mais je crois que je suis venu à cette émission aujourd'hui pour la réentendre encore une fois.
Faites alors sur ce morceau ?
On marche sur la basse de la mélodie, enfin la basse du morceau, et on chante aussi les notes de la basse à ce moment-là. Et c'est une manière de s'incorporer le morceau et de sa manière de vibrer avec et de pas laisser la musique de côté juste pour la danser, mais de la voir dans notre souffle, dans nos pas. Et c'est un des bons moments qui s'arrête à ce moment-là justement du morceau. On bascule vers autre chose.
France Musique, Musique et moi, Priscille Lafitte.
Giusti Donato, dans cet air tiré de l'opéra Rinaldo, d'Endel. Vous obsède-t-il cet air, Richard Matz, au point de le siffler en
Mais je suis venu souffrir là, parce que je me demande même comment... Je fais beaucoup de travail en amateur avec les musiques, donc celui-ci, je le siffle dans Somnol, il y a d'autres musiques... On les chante en amateur, enfin on les réduit, et là de le réentendre là aujourd'hui, je me dis mais comment est-ce qu'on peut toucher à ça, comment est-ce que je peux siffler l'air? Mais l'air est magnifique. Il est utilisé dans un film de Lars von Trier, comme souvent avec Lars von Trier, c'est pervers et cauchemardesque, mais c'est l'air est joué au début. Je crois que c'est le film Antéchrist au début, et c'est un bébé, un tout jeune enfant qui se lève et qui va sauter par la fenêtre. Horrible. Du coup, je suis sûr que tous ceux qui écoutent sont touchés par l'air aussi. Et comment la chanteuse Giusti Donato arrive à relier les parties. Parce que moi, je le siffle, je le siffle comme un bûcheron, quoi. Là,
Mais siffler, chanter est-il aussi important pour vous que de danser ?
Ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien dire que la danse, c'est une sorte d'espace mental, et siffler, chanter, chantonner, siffloter, ou même ni l'un ni l'autre, mais avoir les musiques en tête, ou des textes en tête, ou des images en tête, je trouve que c'est parfois plus intéressant que d'avoir la vraie musique. C'est-à-dire, c'est intéressant que le danseur qui est en train de chanter ou de siffler, il est en train de montrer ce qui lui passe par la tête, en fait. Il est en train de montrer ce qui lui passe comme émotion. Et aussi, ce que fait la danse à son corps, parce que la danse essouffle, la danse fatigue, la danse... Et du coup, quand on danse en chantant, en parlant, en sifflant, on se rend compte aussi de ce qui se passe à l'intérieur. Ça permet de donner une image pour l'extérieur, pour ceux qui nous regardent, de l'intérieur, de l'intimité, de la fabrique, de l'usine aussi presque, du corps dansant. Donc c'est ça qui me plaît beaucoup. Et puis c'est aussi des mémoires finalement. On n'est pas seulement en train de danser sur de la musique, on danse en mémoire de musique, de texte, d'action, d'images qui nous transportent. Et c'est une manière du coup de faire une passerelle entre le danseur et le spectateur, ou la danseuse et la spectatrice. Il y a un pont sonore en fait qui fait qu'on rentre dans le corps des danseurs. C'est mon impression.
Parce que vous convoquez une mémoire collective en sifflotant cet air.
Et puis après, évidemment, il y a des gens qui reconnaissent l'air, qui ne le reconnaissent pas. Mais même si on le reconnaît pas... D'ailleurs, moi-même, ça me touche d'être ici aujourd'hui, parce que chez moi, il y avait France Musique 24 heures sur 24. Donc il y a beaucoup d'air.
Quand vous parlez au passé, c'était
chez moi
l'enfance.
Quand j'étais enfant. Voilà. Alors j'ai quitté mes parents à 12 ans, donc finalement ça s'est arrêté. Mais si je revenais le week-end, il y avait toujours France Musique. C'était France Musique. Même les réunions politiques, c'était sur France Musique. Alors de temps en temps, on baissait un peu pour manger, mais en gros, on avait Jean-Christophe Averty, on avait. Mais du coup, mon problème, c'est que j'ai beaucoup d'air dans la tête, mais je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire, je peux pas les nommer, je peux pas donner la date. Je chante des choses et j'ai ça en tête, mais je sais même plus quel compositeur l'a fait. Parfois, en famille, on s'exerçait pour se dire c'est Brahms ou Schumann, et on n'y arrivait pas. Mais en réalité, j'ai surtout beaucoup de musique dans la tête, et beaucoup de musique classique, donc un peu de jazz, un peu de musique contemporaine, mais qui sont une sorte de valise mentale de mon enfance, qui est vraiment France Musique. J'ai failli appeler mon solo, qui s'appelle Somnol, France Musique. On m'a dit non, puis à l'étranger, ça va être bizarre, et puis avec la puissance énorme des renouveaux du nationalisme, on va pas... France Musique, pour nous, c'est une radio, mais en Europe, France Musique, ce serait bizarre. Donc...
Je sais pas si on aurait sûrement validé.
Je sais pas si j'aurais eu le droit. Mais c'est vrai que du coup, il y a des airs que je ne reconnais pas, mais que je sais connaître, voilà. Et déformer parfois.
Love.
parlez d'incorporation, de déformation, de torsion. Qu'est-ce qu'on entend ici?
Faut imaginer que les danseurs, pendant qu'ils chantent, et pendant vraiment le souffle, pendant le chant, ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils courent, ils se mettent au sol, ils font le plus possible de positions sur le souffle, ils se relèvent, ils recourent jusqu'à être au bout du souffle. Et ils chantent...
Ils chantent ceci. Chante donc les premières mesures de l'Arietta de la sonate numéro 32 en lutte mineure de Beethoven, l'ultime sonate ici par Igor Levit au piano. Vous savez que Beethoven avait indiqué sur cette partition très lent, avec simplicité et bien chanté.
Mais alors je sais pas si on obéit, mais bien chanté. C'est inchantable en tout cas, parce que finalement on peut pas faire le piano à la voix, et encore là c'est les parties lentes du début, mais on peut pas suivre le piano. Mais j'étais fasciné par ce morceau que j'ai aussi écouté en boucle, et puis petit à petit j'ai eu l'idée de faire une réduction, en fait, une réduction à ce qu'on pourrait dire la mélodie de la sonate, mais c'est pas la mélodie, c'est une réduction. On fait cuire, il nous reste, je sais pas ce qui reste, mais il reste quand même du Beethoven, je crois. En tout cas, nous, on a le piano en tête, on a le morceau en tête, et on le déforme aussi parce qu'on a décidé de le, comme je disais tout à l'heure, le danser, de chanter sur le souffle. C'est-à-dire de, du coup, la rythmique est complètement transformée, malaxée presque, parce qu'on commence et on va jusqu'au bout du souffle. Et ensuite, il faut, parce qu'on a couru, parce qu'on a dansé, on doit reprendre son souffle. Donc, on respecte pas la rythmique. Mais, nous, néanmoins, on suit le déroulement de tout l'Arietta, de tout le deuxième mouvement. Donc, on a ça en tête. Je sais pas si les mélomanes qui viennent nous voir reconnaissent vraiment ou pas l'Arietta, s'ils le connaissent. Mais nous, on a ça en nous, et c'est ça qui nous relie. C'est-à-dire que les danseurs font des choses finalement parfois assez différentes les uns des autres, mais on chante ensemble, on respire ensemble, et on est un peu en apnée sur Beethoven.
C'est-à-dire que vous avez demandé à vos danseurs, j'allais dire chanteurs, oui, chanteurs et danseurs, d'incorporer aussi à leur tour cette sonate.
Oui, c'était un énorme boulot en vrai, hein, parce que c'est Dalila Katir qui nous aide sur les voix, qui travaille, là encore aujourd'hui, on est en ce moment au Châtelet, tous les jours elle travaille avec nous pour qu'on se rapproche, c'est un chemin infini, on se rapproche du fait de chanter correctement, ou à peu près correctement, ou le mieux possible en tout cas, ce mouvement.
Mais cette idée, elle part d'une obsession à vous, Boris Chermatz. Qu'est-ce que vous avez dit à vos danseurs pour que, à leur tour, ils s'intéressent à cette sonate?
Bon, souvent, les danseurs disent que je leur dis pas grand-chose et qu'ils doivent se débrouiller. Donc, j'essaye de leur dire des choses, mais soit je suis un peu bouche bée, soit je cherche mes mots. C'est l'expression phare du Festival d'Avignon cette année, chercher ses mots. Mais je cherche mes mots. Et les danseurs sont si généreux que même quand j'en donne deux, ils font une phrase avec et ça leur parle. Et on s'y est tous mis. Ceux qui adorent Beethoven, ceux qui en sont plus éloignés, et ceux qui sont proches d'une pratique vocale, je pense Régis Badel, Solène Wachter, Julien Ferranti, c'est pas des danseurs professionnels, mais ils ont vraiment une pratique vocale. D'autres danseurs de la troupe n'en ont pas, et on s'y est tous mis, je dirais, à pied d'égalité. On a mis le pied à l'étrier et on essaye de faire ça.
Mais vous l'avez transmise, la version piano, ou vous avez transmis la réduction d'une simple ligne de chant?
On a écouté la version piano, mais j'ai transmis la ligne de chant. Donc j'ai transmis, je faisais des mémos vocaux sur mon téléphone où j'enregistrais des bouts partie par partie en les nommant. Il y a un passage qu'on appelle le grand air lent, il y a un passage qu'on appelle le A. On a nommé des bouts. Alors c'est vraiment une réduction, c'est pas tout à fait l'entièreté du deuxième mouvement, mais il y a le développement de l'entièreté du deuxième mouvement.
Et comment vous avez fait cette réduction ? À l'oreille, aux partitions sous les yeux ?
Surtout à l'oreille. J'avais aussi la partition, mais surtout à l'oreille. C'est un peu la réduction de l'amateur qui entend, qui écoute France Musique, qui entend et il se souvient. On est dans la rue, on chantonne et c'est ce qui reste. Hein, donc c'est une décoction.
Igor Levit, dans cette Arietta de la 32e sonate de Beethoven. Est-ce que vous êtes parvenu à comprendre, vous, Boris Tchermatz, en votre fort intérieur, pourquoi vous êtes obsédé par...
Alors déjà, on a créé Liberté Cathédrale, cette pièce où on chante ce passage, dans une église, et je cherchais... La pièce s'appelle Liberté Cathédrale, les chants dans l'église sont importants, dans mon travail aussi, donc je cherchais quelque chose à chanter, mais je crois que je voulais pas une musique sacrée, et quelque part, je voulais peut-être pas des chants d'église. Hein. Donc il y avait une émotion et peut-être une tristesse aussi qui est pas dans ce passage-là, peut-être du morceau qui me plongeait dans des abîmes comme ça de perplexité. Donc je me suis dit on va travailler là-dessus. Mais ce qui me plaît énormément dans ce morceau et c'est justement le passage qu'on vient d'entendre, c'est que on a l'impression que Beethoven il invente le ragtime pour moi. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit mais c'est fou le. On dirait un ragtime, en fait. C'est comme si, pour moi, Beethoven et le jazz, c'est loin, mais j'avais l'impression que c'était le début du ragtime. C'est faux, sûrement, et un musicologue me contredirait, évidemment.
Mais on a l'impression qu'il y a un saut d'un siècle.
Oui, oui, dans ce passage. Et du coup, il relie la langueur mélancolique du début à quelque chose qui est très dansé aussi, hein, très
oui,
sautillant.
Oui, syncopé.
Syncopé, c'est pas Thelonious Monk, mais il y a quelque chose comme ça j'adore ça. Et je sais pas, ça m'a même pas donné envie de danser, mais ça m'a donné envie d'habiter avec cette musique, de rester dessus. Et évidemment, quand on crée une pièce avec une musique, ça veut dire qu'on va l'entendre et la réentendre et la réentendre. Et en plus, là, on la chante et on la rechante et on se réenchante. Enfin, il y a quelque chose de très fort quand on prépare une pièce.
Et il y a aussi quelques similitudes avec la chaconne qu'on vient d'entendre auparavant. C'est aussi une grande variation qui peut ressembler à une grande improvisation.
Oui.
Il y a de ça aussi dans la danse?
En tout cas, l'improvisation est importante pour moi.
La variation est importante aussi?
Oui. Je voudrais pas comment dire, il y a des variations dans mon travail, mais il y a des répétitions dans mon travail, mais mon travail est quand même très chaotique, très embrouillé, bouillonnant, et du coup, je fais pas un travail vraiment d'analyse de il y a des variations bien sûr, mais je fais pas du tout un travail et pourtant je lis et pourtant j'étudie et pourtant si, mais ensuite quand on travaille dans le studio ou là dans l'église en l'occurrence, j'ai très peu de modèles formels en fait. Je préfère être vraiment à même le corps, dans les sensations, donc ce serait faux de dire je travaille sur le modèle de la variation par exemple, ou l'histoire de la variation, ou la structure des variations en musique ou en chorégraphie, ce serait exagéré en fait. Voilà.
Peut-être êtes-vous rattrapé par ces structures-là a posteriori.
Ah oui, tout à fait. Et puis il y a plein de variations de différentes manières. Par exemple, dans la pièce 10 000 gestes, les danseurs inventent eux-mêmes leurs gestes. Mais il y a un moment où je leur ai transmis moi des gestes à moi, on va dire. C'est les seuls gestes à moi qui sont dans la pièce. Mais eux ont fait des variations avec ça. Ils se sont emparés de mes gestes, mais ils font chacun leur version. Et on présente en même temps, en simultané, il y a 25 danseurs à peu près, qui font en simultané les variations autour de ma phrase, sauf qu'en l'occurrence, ma phrase n'est plus là. Je suis pas là sur le plateau, donc on nous présente une sorte de kaléidoscope fait à partir de la même matrice.
Alors dans ce Liberté Cathédrale, on entend aussi des cloches. Je dis qu'on entend des cloches, on voit aussi des cloches.
Oui.
Puisque vos danseurs prennent l'impulsion.
Ils font les cloches, mais ça pourrait porter à confusion. Mais...
D'où viennent-elles ces cloches?
Alors c'est Olivier Renouf qui a fabriqué un morceau de musique à partir de volets de cloches. Mais il y a aussi des glas, il y a très peu de carillons. Il y a un carillon de Lisbonne. Je voulais vraiment les cloches, c'est de la musique les cloches bien sûr, elles sont accordées aussi, mais être à l'endroit de la volée, donc à l'endroit du chaos, des oscillations comme ça, des cloches, du mouvement et de la pléthore de cloches. Donc on utilise très peu de carillons, mais c'est un morceau qui fait 30 minutes, plus de 30 minutes.
Donc c'est un morceau pour vous, c'est un morceau de musique.
C'est tout à la fois, c'est un morceau, c'est un message, je disais aussi, c'est une fête techno pour moi. C'est-à-dire que les cloches, avec cette rythmique-là, j'avais envie qu'on danse sur le rythme des cloches, en prenant ça vraiment aussi sérieusement qu'on danse sur du Bach, sur du Stravinsky. C'est-à-dire, on va danser là-dessus et on a vraiment calé nos mouvements. Donc, tous les danseurs calent leurs mouvements sur les impacts de cloches, sur le swing des cloches. Donc, c'est là où on peut dire, on voit les cloches, c'est vrai. On
fait les cloches. Hein, vos danseurs.
Voilà. On fait vraiment ce qu'on entend de manière très bête, hein. C'est un à un. Alors, c'est presque impossible à suivre. Parce que quand c'est complexe comme ce qu'on entend maintenant. Voilà, c'est très dur à suivre, mais les danseurs essayent d'avoir un mouvement pour chaque cloche, un mouvement pour chaque son entendu, un mouvement pour chaque impact. On peut pas, mais c'est ce qu'ils essayent.
Ici Cali Malone à l'orgue. C'est un morceau qui date de 2019, qu'elle a intitulé Le Code Sacrificiel. Alors, ce n'est pas exactement ce qu'on entend dans Liberté Cathédrale, puisque c'est plutôt de l'ordre de l'improvisation par Jean-Baptiste Monod, qui joue sur un orgue de voyage. Il faut absolument que vous m'expliquiez ce que c'est que cet orgue de voyage qui trône au milieu du théâtre du Châtelet.
Alors, Jean-Baptiste Monod, c'est un excellent organiste, musicien. Il a fabriqué, lui-même inventé, un orgue de voyage. Donc, il voulait que l'orgue puisse sortir des églises. Et d'une certaine manière, nous aussi, puisqu'on a créé notre pièce dans une église, mais on voulait migrer. Et il a travaillé, je crois, 7 années, oui, j'espère que je dis pas de bêtises, pour assembler un système de tuyaux qui puisse rentrer dans un petit camion, donc qui soit quand même vraiment transportable. C'est pas une mince affaire. Je crois qu'il y a 800 tuyaux dans son orgue de voyage, mais à vérifier aussi, je suis très mauvais pour la précision des chiffres et des dates. Et c'est un vrai orgue, mais qu'on pouvait installer au Châtelet, ce qui permet du coup à l'orgue de sortir des espaces dédiés, et en l'occurrence du coup ça nous permet à nous de danser sur de l'orgue au théâtre du Châtelet par exemple, ou à l'Opéra de Lille comme en décembre.
Sur des nappes d'orgue aussi, qui ressemblent à celles de Cali Malone ici. Alors, c'est-à-dire que c'est quasiment des clusters à certains moments.
Oui, alors j'adore Cali Malone, je trouve que c'est une musicienne, compositrice extraordinaire. Un jour j'aimerais bien chorégraphier là-dessus, sur Cali Malone, c'est vraiment quelqu'un de très fort. Mais en l'occurrence, dans Liberté Cathédrale, il y a des improvisations, effectivement, de Jean-Baptiste Monod. Il y a surtout un gros morceau de Phil Niblock, qui est un compositeur expérimental qui vient de décéder, américain, qui a, je sais pas s'il n'a pas inventé, mais c'est vraiment l'un des grands développeurs des musiques de drone, comme ça, où on a l'impression que, là, en l'occurrence, dans cette pièce pour orgue, que tous les tuyaux jouent en même temps. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais...
Vous y entendez quoi ? C'est la densité du son qui vous intéresse ?
Alors, c'est vrai que les cloches et l'orgue... Alors, j'ai toujours été fan d'orgue depuis tout petit, et depuis tout petit, je veux chorégraphier sur des cloches, donc c'est ancien. Mais il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais une des choses qui m'intéresse, c'est que c'est des musiques qui traversent les corps, en fait. Les cloches traversent la ville. On peut dire que c'est de la musique, mais c'est aussi du message. Hein. Le glas, c'est le message d'une mort. J'ai le souvenir à Lyon du premier jour de la guerre en Irak, où toutes les cloches de Lyon sonnent le glas, un jour de deuil. Donc, et l'orgue, ça résonne avec l'architecture des églises, ça traverse les corps, ça fait vibrer l'air autour. Donc, et puis, c'est aussi du souffle continu. Alors, on peut faire du souffle continu au saxophone, mais c'est complexe. L'orgue, c'est une manière mécanique de faire du souffle continu, ce qui me parle beaucoup, parce que le danseur n'a pas de souffle... Enfin, quand je siffle, je peux aussi faire du sifflet continu, mais d'une certaine manière, on est mortel, le souffle s'arrête, on doit inspirer, et l'orgue nous permet d'imaginer le souffle continu, le fait d'exhaler à l'infini. Donc ça me plaît énormément, et du coup, on a travaillé avec Jean-Baptiste Monod, au départ d'ailleurs avec Campus Lindvall, un autre organiste que j'aime beaucoup. On a travaillé, et à la toute fin de Liberté Cathédrale, on joue même un Vivaldi, que Bach a transcrit, mais on le joue... un peu à la manière du morceau de Cali Malone, on le joue en mode extrêmement lent et tiré. Donc c'est du Vivaldi qui deviendrait du Morton Feldman, qui deviendrait encore autre chose, et qui joue à la fin, pendant les applaudissements, et même après les applaudissements, il joue jusqu'à ce que les spectateurs soient partis.
Thank you.
Là aussi, on est sur le souffle continu et un phénomène de balancement comme des cloches, finalement, alors, Boris Sharmatz.
Oui, vous m'avez interrogé tout à l'heure sur la variation, j'ai été un peu décontenancé par le canon, la forme du canon. Ça, par contre, j'ai beaucoup travaillé ça, vraiment, clairement, concrètement, parce que ce qui est magnifique dans le canon, c'est que ça avance. Hein, les chanteurs avancent dans le morceau, mais il y a aussi quelque chose de totalement statique. Il y a une permanence, en fait, puisqu'évidemment, on réentend. Et là, c'est un magnifique.
Là, c'est un motet de Josquin des Prés, Qui habitat.
Voilà. Mais la forme du canon, il y a à la fois l'immobilité et la mobilité, en fait. Parce Frère Jacques ou d'autres canons, on réentend la même chose, mais c'est des chanteurs différents, des corps différents qui reprennent en permanence, d'une certaine manière, les morceaux. Et donc, il y a une tension que j'adore entre la dynamique qui fait que le morceau avance, néanmoins, et qu'en même temps, il est statique. Et la danse, moi, ça m'intéresse quand on peut bouger beaucoup, mais rester d'une certaine manière immobile en soi, et à l'inverse on peut être immobile et pourtant voyager, se déplacer. Donc c'est à la fois formel, mais c'est aussi des sensations, des émotions liées à la forme canon qui me parlent, et pour le coup j'ai pas mal bossé. On a fait ça encore une fois en amateur dans la pièce Manger, on chantait le début de Qui habitat, encore aidé par Dalila Katir pour le faire, mais on chantait ça en mangeant des feuilles A4 de papier. Donc c'est un peu comme si on mangeait je sais pas si c'est des contrats de travail, si c'est du texte, et c'est aussi l'hostie, bien sûr, hein. On mangeait du papier comestible, donc on pourrait dire c'est le corps du Christ, mais on en avalait des gros morceaux, parce que les danseurs dans la pièce Manger avalaient 10, 12, certains 16 ou 17 feuilles de papier pendant la pièce. Donc ils gesticulent, ils bougent, ils fondent, ils dansent en chantant ou en parlant et en mangeant. C'était un sacré exercice.
Forever, pour toujours. Chante ici Jennifer Vivian dans cette air de The Fairy Queen de Purcell, qui a été repris par Pina Bausch dans Café Müller. Café Müller que vous-même allez revisiter lors d'une création à Avignon l'été prochain. Avez-vous pu percevoir, comprendre quel rapport Pina Bausch, elle, entretenait à la musique et au chant?
Ah, je suis vraiment. J'aimerais être bien placé pour répondre, mais je sais pas. Je sais que elle écoutait avant de danser Café Müller au casque. Elle écoutait les airs encore et encore qui sont présents donc de Purcell dans Café Müller. Et nous, on revisite pas Café Müller. D'une certaine manière, on rentre en immersion dans Café Müller. Donc on essaie de se rapprocher de Café Müller et de jamais quitter Café Müller. Et ça vient des répétitions où dans le Lichtburg, le studio de travail de Pina, qui est un ancien cinéma, on répétait la pièce Café Müller et du coup je voyais la pièce à 1 mètre, à 2 mètres, à 3 mètres de distance. Et la pièce est aussi magnifique quand elle est jouée à la cour d'honneur du Palais des Papes. Mais être dans le studio où elle a fabriqué cette danse-là, avec les interprètes extraordinaires que sont et qui étaient Yann Minaric, Malo Hérodo, Dominique Merci, Rolf Borzic, je me suis dit, en fait, j'ai envie d'être à cet endroit-là de proximité. Et aussi à cet endroit-là de ne jamais arrêter Café Müller. Pina est décédée, Yann Minaric est décédé, certains danseurs ne dansent plus, ne peuvent plus danser. Néanmoins, on veut que Café Müller continue. Donc on se met à plusieurs, avec plusieurs générations. Il y a des générations Elena Picon, Nazareth Panadero, Jean-Laurent Sasportes, qui sont les anciennes générations qui ont dansé pendant des années, des années, des années cette pièce. Et puis des tout jeunes danseurs de la compagnie d'aujourd'hui. On se met ensemble. On est en immersion dans Café Müller et du coup, les musiques vont revenir et revenir et la danse, on la travaille, on la retravaille.
Est-ce que vous êtes vous-même obsédé aussi par cette pièce ?
Oui, je suis assez obsédé par cette pièce. Je me rends compte à quel point elle est difficile, à quel point c'est aussi... Il y a presque une impossibilité à la danser aujourd'hui, en l'absence de... Mais cette impossibilité, elle est aussi créatrice, en fait. C'est aussi très beau de travailler avec l'absence, de travailler avec... Et évidemment, il y a aussi une absence dans la pièce elle-même. Les corps se cherchent, ne se trouvent pas, ils disparaissent, ils se heurtent à des murs, ils s'embrassent aussi, quand même.
Et... Vous savez, Boris Chermette, dans cette émission Musique et moi, on est souvent amené à parler de Pina Bausch.
Ah bon ?
Parce que beaucoup d'invités ont été fortement marqués par son travail et continuent à aller travailler, qu'il soit chorégraphe ou pas, qu'il soit aussi metteur en scène, cinéaste, acteur. Vous comprenez l'empreinte qu'elle a laissée ?
Et oui, on me demande souvent quel est mon rapport personnel, oui. Intime, individuel à Pina Bausch et à son œuvre. J'ai un rapport et je peux vous en parler, mais ce qui est frappant dans son travail, c'est que tout le monde a un rapport. Enfin, le chauffeur de taxi de Wuppertal, le marchand de fleurs de Wuppertal, le musicien, la femme de théâtre, ont souvent, ou elle a su tisser un rapport presque individuel d'émotions, des clés de spectacle, des clés existentielles aussi, avec chacun. Et du coup, ça va bien au-delà de ce que moi, de la relation que j'ai moi avec elle. Et à Wuppertal, on est entouré de gens qui ont d'artistes, de danseurs, mais aussi Peter Papp, l'immense scénographe, et le public de Wuppertal, qui ont les danseurs ont passé leur vie, donc corps et âme, pour, avec elle, son travail, ses œuvres, ses pièces, ses créations. Sachant que sa plus grande création, c'est encore le temps de Theater Wuppertal, Pina Bausch, cette compagnie qui est la création, la méta-création qu'elle a su générer. Donc, oui, elle sait parler à tout le monde.
Elle est aussi dans l'individuel et dans le collectif. Vous recherchez aussi cet endroit-là ?
Bon, peut-être qu'on cherche tous ça, hein, ouais. Et spécialement aujourd'hui, comment faire société, comment faire l'assemblée, comment travailler notre assemblée nécessaire dans un monde qui est menacé, menaçant. Dans Liberté Cadrale, c'est vraiment un travail d'assemblée chorégraphique sur 5 parties. Et en même temps, on est dans une société où l'individu compte, c'est-à-dire les unissons de danse, la marche militaire et la danse. Donc on a besoin à tout prix d'une liberté individuelle, d'une liberté à tous les niveaux, d'expression, de corps, liberté de genre, de sexualité, de... Mais on a besoin de l'assemblée, évidemment, on a un désir d'assemblée. Et elle a travaillé ça à sa manière, avec des solos inoubliables, mais aussi des rondes inoubliables. Moi, je suis de notre génération, on travaille ça différemment, le genre est travaillé différemment. Mais elle donne, heureusement ou malheureusement, elle donne encore des leçons à beaucoup d'artistes dont je suis.
Blackbird singing in the dead of night. Boom, 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 ding, this broken wings and learn to fly. Boom, 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 for your life. Boom, 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 that you were only waiting for this moment to arrive. Beep, 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 blackbird singing in the dead of night. Ding, ding, song in my eyes, I learned to sing. Ding, dong, ba, dong, ba, dong, more your life. You were only waiting for this moment to be afraid. Beep, 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 doo, doo, blah, 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 bl
Blackbird selon Bobby McFerrin.
C'est génial, non? C'est vraiment génial. Il est génial, ce type.
Qui a un idéal d'incorporation de la musique.
Oui, bah, c'est génial. Il est tout seul. Et il peut faire tout ça, quoi. Il fait un monde tout seul, à lui tout seul. C'est...
Il manquerait plus qu'il danse.
Il danse déjà.
Merci beaucoup, Boris Fermatz, d'être venu dans Musique et moi ce matin. Votre création avec l'ensemble Tanztheater Wuppertal est à l'affiche du Théâtre du Châtelet jusqu'au 18 avril. Vous restez à Paris ensuite, toujours place du Châtelet, les 27 et 28 avril pour une chorégraphie, mais cette fois en plein air. Et puis vous serez à l'affiche du Festival d'Avignon, notamment pour une création qui s'intitulera Cercle, une reprise de Liberté Cathédrale, et puis Café Müller à l'infini. Café Müller pour toujours. Merci à toute l'équipe qui a œuvré à ce Musique et moi ce matin. Inès de Bruyne à la technique, Claire Lagarde à la réalisation, attachée de production, Maud Nourry. Passez un très bon dimanche sur France Musique. À la semaine prochaine, 11h, pour de nouveaux émois musicaux.
À réécouter sur francemusique.fr.